France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 20 novembre. Hélène Roussel, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le Black Friday, cette journée de promotion dans les magasins prévue vendredi prochain, sera-t-il reporté au 4 décembre ? Amazon France donne son feu vert hier soir. Confirmation du ministère attendue dans les heures qui viennent. Une chance pour les petits commerces qui pourraient, eux, rouvrir entre-temps. Réunion cruciale aujourd'hui à Bercy. On voit l'ensemble du dossier. Hélène, après les autres titres.
Le combat contre le Covid avec des tests hebdomadaires pour les employés dans les EHPAD et des milliers de masques transparents pour ceux qui travaillent avec les plus petits. Une lettre des maires écologistes pour demander plus de moyens contre la pauvreté. Et puis un coffret pour ses 20 ans. Vitalik, musique électronique. On vibre à la fin du journal.
Et les invités et rendez-vous d'Inter ce matin, 7h45. Le débat éco du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux autour d'une question cette semaine. L'État fait tout face au réchauffement climatique. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Elle publie Sigy, la mer, guérir du ressentiment. C'est aux éditions Gallimard. Le standard vous attend, 01 45 24 7000.
France Inter.
En jeu, la réouverture des commerces dits non essentiels. Mais condition sine qua non pour Bercy, le report du Black Friday d'abord. Cette grande braderie du vendredi 27 novembre, Made in USA, les principales enseignes de la grande distribution cèdent. Le pape du commerce en ligne embraye. Le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, sur TF1 hier soir.
Depuis le début de cette pandémie, nous offrons un service que les Français apprécient tout en assurant la sécurité de nos salariés. Et aujourd'hui, comme d'autres distributeurs en France, en écoutant les recommandations du gouvernement, nous avons décidé de reporter la date du Black Friday, si cela permet de rouvrir les commerces et les magasins physiques avant le 1er décembre. Et donc, cette année, le Black Friday aura lieu le 4 décembre et nous servirons l'ensemble des Français partout sur le territoire et nous serons aussi un support à l'ensemble des milliers de TPE et PME qui vendent par notre intermédiaire.
Le Black Friday reporté au 4 décembre avec Amazon dans la boucle, on peut dire que c'est quasiment joué. Bonjour Hélène Philly.
Bonjour.
C'était exactement en tout cas ce que voulait le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors est-ce que ça veut dire que c'est feu vert pour la réouverture des petits commerces ?
Alors c'est pas encore garanti à 100%, mais ce qui est sûr c'est que sans ce report, une réouverture anticipée n'était pas envisageable du tout. Il devenait politique ce Black Friday. Et pour la grande distribution, il y avait aussi un autre enjeu, le retour de ces rayons non essentiels. Si les petits commerces ont droit de rouvrir, eux pourront enlever le gros scotch de leur rayon jouets et papeterie. Les modalités logistiques de tout ça sont encore à discuter. Une réunion est prévue aujourd'hui à 15h, mais ça ne fait plus de doute que le Black Friday sera reporté au 4 décembre. Le ministre a bien négocié, sollicité tout à l'heure sur France Inter, le président de la Confédération des commerçants. Le travail maintenant, c'est de boucler aujourd'hui sans doute le protocole sanitaire qui finisse de convaincre le gouvernement. Sens de circulation, réduction de la jauge. Aujourd'hui, c'est un client pour 4 mètres carrés, ce sera peut-être un client pour 8 ou un client pour 10 mètres carrés. Les horaires d'ouverture devraient aussi être élargis, plus tôt le matin, plus de dimanche, pour lisser au maximum la fréquentation.
Et pour l'ouverture des petits commerces, il faudra encore attendre la semaine prochaine l'intervention d'Emmanuel Macron. Merci Hélène Philly pour les explications. Quoi qu'il arrive, encore plus que les autres années, la Poste s'attend à un gros boom des ventes en ligne avant Noël. Jusqu'à 4 millions de colis par jour pour les deux prochaines semaines. C'est deux fois plus qu'un mois de décembre classique. La Poste recrute pour l'occasion 9000 personnes. Personne en CDD ou en intérimaire. Les commerces non essentiels rouverts peut-être bientôt, mais non, le confinement n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que ça baisse que c'est bas, résume hier le ministre de la Santé. Certes, le virus circule moins de patients Covid à l'hôpital ou en réanimation, mais le niveau de contamination quotidienne est équivalent à la période du couvre-feu, temporise Olivier Véran. Plus de 20 000 cas positifs en 24 heures. Une annonce hier, dans les EHPAD, 1600 établissements aujourd'hui touchés par le Covid. Le personnel pourra être testé chaque semaine avec plus d'1,5 million de tests antigéniques distribués ces prochains jours. Autre mesure, cette fois pour les tout-petits, 500 000 de masques transparents, dits inclusifs, pour les assistantes maternelles et les personnels de crèche. Car si le masque est devenu un objet banal du quotidien, les parents s'inquiètent de plus en plus. Reportage dans une crèche de Meudon, près de Paris, avec Thibault Lefebvre.
Les plus grands ont bien compris pourquoi les adultes devaient porter des masques à la crèche.
Parce qu'il y a quoi ?
C'est qu'on a
coronavirus.
Les conséquences sont-elles beaucoup plus compliquées à appréhender et notamment pour les parents?
Je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir. Est-ce que plus tard, ils vont avoir des difficultés?
Camélia et la maman d'Alice, 4 mois.
Ça fait se poser beaucoup de questions, notamment par rapport aux peurs que peuvent avoir les enfants. Là, elle gazouille un petit peu et elle a tendance à beaucoup regarder les lèvres à la maison pour parler. Donc c'est vrai qu'on s'interroge sur l'impact du fait de ne pas avoir accès en fait aux lèvres pour essayer d'imiter donc par rapport à l'apprentissage du langage.
Des doutes partagés par Marilyn, 10 ans de crèche en tant qu'éducatrice.
Pour moi, il y a forcément des conséquences dans la vie d'un tout petit sur tout ce qu'on fait.
Elle attend avec impatience l'arrivée des masques transparents.
C'est un vrai plus si on arrive à les avoir, ce que les enfants observent, imitent et répètent. C'est comme ça que l'être humain apprend. Donc nous, par moment, quand on chante, par exemple, on enlève le masque quelques instants, on leur montre qu'on est en train de chanter. Donc je pense que c'est vraiment un plus pour nous.
Selon la Caisse nationale des allocations familiales, qui financera la distribution, 3 masques seront attribués par professionnels de la petite enfance.
Reportage de Thibault Lefebvre. La crise du Covid est, on le sait, protéiforme, sanitaire, économique et sociale. 1 million de pauvres supplémentaires et 300 000 personnes à la rue. Des maires écologistes ont écrit au Premier ministre pour lui demander des moyens supplémentaires. Quoi qu'il en coûte, les élus réclament des comptes et des sous, Laurence Perron.
Pas question, insistent les maires signataires, de faire de la politique sur la détresse sociale. Les élus entendent plutôt se faire le relais des situations dramatiques qu'ils l'écrivent, qu'ils observent sur le terrain. Léonore Monconduit, maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers.
Nous, élus locaux, nous sommes les premiers témoins de la crise sociale en cours, en parallèle de la crise sanitaire, sur le Secours Populaire de la Vienne. 45% de personnes aidées en plus depuis mars dernier et le double de colis d'urgence distribués par rapport au premier confinement.
Il y a urgence, selon l'élu, à ouvrir notamment le RSA aux moins de 25 ans.
Encore une fois, les jeunes sont les plus précaires et ce sont eux qui ont besoin de ce mécanisme de garantie financière indépendamment d'autres critères.
À Tours, Paris, Bordeaux, Strasbourg, les maires font face aux mêmes difficultés. L'impossibilité de trouver des places d'hébergement, les colis alimentaires qu'il faut diviser, des gens qui n'ont plus les moyens de se soigner. Le président de la République a pourtant assuré qu'il faudrait tout faire pour amortir la crise. Quoi qu'il en coûte, Bruno Bernard, le président du Grand Lyon.
Alors, le quoi qu'il en coûte ne concernait que les entreprises. Donc aujourd'hui, il faut aussi tenir compte des populations et des situations les plus difficiles. Il faut que le gouvernement avance aussi sur ces sujets, ils sont très nombreux.
Donnez-nous les moyens de mettre en œuvre les engagements du gouvernement, voilà ce que plaident en substance les maires. Quoi qu'il en coûte.
Et la lettre des élus sur cette crise sociale est à lire en exclusivité sur franceinter.fr. Les ravages du Covid, coup d'œil aux États-Unis, 2000 morts, 200 000 cas en 24 heures et une nouvelle série de restrictions. Couvre-feu en Californie, un appel aussi des autorités à éviter les déplacements dans le pays pour les fêtes de Thanksgiving. Joe Biden, hier, dans une conférence de presse chez lui dans le Delaware, a assuré qu'il n'imposerait pas de confinement total. Je n'arrêterai pas l'économie, point, j'arrêterai le virus. Le président élu attaque aussi l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump qui refuse toujours de concéder sa défaite, alors que le recomptage en Géorgie confirme encore un peu plus la victoire du démocrate. 5 millions de bulletins recomptés à la main, verdict plus de 12 000 voix d'écart.
Il est 7h08, Hélène, un amendement pour garantir la liberté d'informer.
Le gouvernement, sous la pression de sa propre majorité, obligé de reculer après être passé par le bureau de Jean Castex hier soir. Gérald Darmanin va donc amender cet après-midi devant l'Assemblée l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale. Un texte qui encadre la diffusion des images de policiers avec désormais écrit noir sur blanc « Aucun obstacle ne sera fait à la liberté d'informer ». Un projet de loi qui voit le bout, voté définitivement aujourd'hui au Sénat, celui sur la programmation de la recherche. Objectif, relancer la France dans la compétition internationale avec 25 milliards d'euros sur 10 ans, des revalorisations salariales, mais aussi un amendement rajouté in extremis par les sénateurs et qui ne passe pas inaperçu, un délit d'entrave. L'intrusion sur un campus pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Pas de quoi rassurer syndicats et partis de gauche qui, là encore, dénoncent une mesure liberticide. En bref, encore pas de verdict avant demain samedi. Hier, devant la cour d'assises de Haute-Saône, pour la première fois depuis le début du procès, Jonathan Daval a avoué avoir tué sa femme, Alexia. Mais la question du pourquoi reste en suspens. Dernière ligne droite aujourd'hui, la cour se penche sur sa personnalité et entendra ses proches. La défenseure des droits prône une meilleure prise en compte de la parole des des enfants. La vie des jeunes n'est pas entendue, avertit Claire Hédon. Les adultes doivent apprendre à écouter. Un rapport publié à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant ce vendredi. Une journée qui prend toute sa dimension dans certains pays. Au Liban, balayé depuis un an par les crises financières, économiques, politiques, les enfants sont de retour dans les rues, plus nombreux chaque jour. C'est un reportage de notre correspondant à Beyrouth, Aurélien Colli.
Tripoli au nord, Beyrouth au centre, Tirouçaïda au sud, quelle que soit la ville, les mêmes scènes au Grand Carrefour. Des enfants qui mendient ou qui vendent des mouchoirs ou des chewing-gums. Avec sa raclette et son chiffon, Ahmed, lui, lave les pare-brises. Moi, je suis dans la misère, je suis obligé de travailler. Chaque jour, je gagne 5, 10 ou 15 000 livres, c'est tout, explique le garçon de 14 ans. À peine 1 euro pour aider ses parents réfugiés syriens. Je ne veux pas qu'ils sachent que je fais ça. Je leur dis que je suis dans un magasin. Avant, mon père travaillait, mais il n'y a plus de travail, ajoute Ahmed. Même réalité pour Farah, 13 ans, qui est juste à côté de lui. C'est la première fois que je viens travailler ici. Personne ne me force, mais on n'a plus d'argent. C'est juste pour aider ma famille, confie cette jeune Libanaise d'origine palestinienne, sous le regard bienveillant d'une assistante sociale. Avant, c'était surtout des enfants syriens. Maintenant, il y a aussi des Palestiniens, des Libanais. Ils sont exposés à des violences, des humiliations et de la malnutrition, déplore Fatima Ardat, de l'association Terre des Hommes qui leur vient en aide. Leur nombre a beaucoup augmenté avec la crise, exacerbée par le Covid, et avec aussi l'explosion de Beyrouth. Le déclencheur, c'est la situation financière des familles et elle ne cesse de se dégrader, résume Jacqueline Atoui, chargée de la protection de l'enfance à l'UNICEF Liban. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
En bref, coup d'envoi de la 5G en France. SFR lance aujourd'hui à Nice la nouvelle technologie de téléphonie mobile qui devra progressivement se déployer dans tout le pays. Allez, on va s'offrir un petit moment de plaisir. Voici une valeur sûre de la musique électronique française connue dans le monde entier. Vitalik fête ses 20 ans de carrière avec la sortie d'un coffret Mathieu Culeron qui regroupe la plupart de ses titres. Cadeau.
Pour ce coffret, Vitalik regarde dans le rétroviseur histoire de fêter dignement son anniversaire. Originaire de Dijon, il sort ce fameux poney EP qui connaîtra un succès quasi immédiat au début des années 2000. Un parcours avec plein de chemins de traverse qui le surprend encore aujourd'hui.
Par exemple, les remixes de Björk, de Daft Punk, Jarre, plus récemment Étienne Dao. Voilà, tu vois, c'est des trucs auxquels je n'aurais pas pensé il y a 20 ans. Alors, j'ai jamais considéré mon projet Vitalik comme quelque chose de fermé, en fait, de purement techno. Depuis le début, c'est très ouvert, il y a des influences disco, des influences rock. Je ne parle jamais de techno quand je parle de moi.
Ce coffret, en édition limitée, revient sur la carrière du producteur et le musicien a dispersé quelques tickets en or qui permettront aux chanceux d'aller le voir en concert, en salle, à vie. Une initiative qui fait sourire Vitalik.
C'est un peu charrier la chocolaterie, oui. Mais je trouve ça rigolo. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien tomber sur un truc comme ça. C'est une place à vie, pas en festival, c'est pas possible, mais sur toutes les dates que je produis moi, donc en salle de concert, avec un plus 1.
Vitalik qui fête ses 20 ans avec un coffret qui revient sur l'incroyable diversité d'un artiste de musique électronique, désormais incontournable.
Un coffret de Vitalik qui contient aussi, tenez-vous bien, quelques tickets magiques, des places à vie pour ses futurs concerts. Oh, un bon remède à la mélancolie, comme on dit sur Inter.
Merci Hélène Roussel.